Il n'y a plus ce contact qui était si, si particulier. Et c'est ça que j'aimais à l'école, finalement, c'est être en contact avec mes amis. J'ai entendu dire à un de mes amis dire qu'on était censé vivre la meilleure période de notre vie, socialement en parlant. Bah, c'est un peu gâché. Mais il faut vivre avec.
Depuis le début de la semaine, quelques étudiants retrouvent peu à peu les bancs de la fac, mais cela reste encore très marginal. L'essentiel des cours se fait toujours en distanciel, comme il est de bon ton de dire aujourd'hui. Depuis l'apparition du virus, la vie étudiante est en pause. Il y a bien eu quelques semaines à la rentrée de septembre, durant lesquelles les 2 700 000 étudiants ont cru retrouver leur vie, leurs cours, leurs amis et même leurs fêtes. Mis à part cette parenthèse, depuis presque un an désormais, l'apprentissage se fait à travers un écran, pour ceux en tout cas qui ont la chance d'être équipés. Pour les autres, le décrochage semble inévitable. Dans certaines facs, le taux de connexion aux cours à distance est passé de 70 à 30%. L'isolement des étudiants ne se limite pas au seul savoir. Leur vie sociale est anéantie à un moment où, au contraire, elle devrait être au centre de tout.
L'adolescence est une période où commence la séparation avec le monde de la famille. Mais la période des études, entre 18 et 25 ans, c'est la période où on concrétise cette séparation, hein, et où il y a une véritable construction d'autonomie.
Pour les étudiants les plus précaires, les confinements successifs les ont privés de leur seule source de revenus. Sur le marché, plus ou si peu de jobs étudiants, alors qu'un jeune sur deux travaille pour financer sa formation.
On ne peut plus compter sur les petits jobs que n'importe qui pouvait faire avant. Par exemple, on peut faire du babysitting ou des cours à domicile, il y a beaucoup d'étudiants qui le font. Et maintenant, par exemple, on ne peut plus le faire non plus, vu que c'est chacun chez soi.
Entre la peur de suivre des formations que certains estimeront au rabais, la crainte de ne pas décrocher de stage en entreprise, les étudiants n'ont pas le droit à la légèreté que leur jeune âge devrait logiquement leur conférer. Étudiants sous Covid, la vie sur pause. C'est un reportage de Géraldine Allot avec à la prise de son Martin Troidec et Stéphane Beaufils.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Bonjour, c'est France Inter. Merci. Bonjour.
Bonjour.
C'est l'heure du petit déjeuner ?
Bah oui, on vient à peine de terminer.
Bonjour.
Alix ?
Oui, c'est ça.
Donc vous avez quel âge, Alix ?
J'ai 18 ans.
Et vous êtes en quelle section ?
Je suis en LAS STAPS. C'est une filière en fait STAPS avec une option en plus qui me permet normalement d'atteindre médecine l'année prochaine.
Donc STAPS, c'est sciences et techniques des activités physiques et sportives.
Oui, c'est ça.
Là, il se passe quoi ce matin ?
J'ai un cours de sociaux, un TD.
À quelle heure ?
À 8h15.
Ah, donc, ça va pas tarder.
Oui, c'est ça.
On peut vous suivre ?
Oui, pas de problème.
Donc là, vous avez 3 écrans. Ouais. Ordinateur portable, la tablette et votre téléphone.
Ouais. Parce que le prof, il sait jamais. Enfin, on a 2 sites pour faire les visios. Des fois, il y en a un qui bug. Du coup, il préfère passer sur un autre site pour privilégier tout le monde, quoi. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter sur l'un d'eux. Du coup, il arrive. Voilà, j'ai une connexion qui ne marche pas.
C'est vous ou c'est lui ?
Non, c'est moi. Bah, vous voyez, en fait, là, il y a un truc rouge qui montre que c'est moi.
Voilà, est-ce que me rejoindre le suite, là, sur Zoom ?
Donc là, on voit l'image de l'enseignant qui s'affiche sur l'écran.
Donc, Camille et Marie, peut-être, on commence par vous. Est-ce que vous avez un support ?
Non, on n'a pas de support.
D'accord. On vous écoute, alors.
dans ce texte sur la présentation, afin de le comprendre véritablement, le rôle du sport en matière d'intégration des minorités ethniques françaises et britanniques. Donc Lionel Arnaud, il va nous montrer le lien entre
donc
les.
Donc là, l'enseignant invite les étudiants qui participent à ce TD à réagir à un texte de Lionel Arnaud qui s'appelle « Sous le maillot la race, idéologie et discours sportif dans les politiques d'intégration des minorités ethniques en France et en Grande-Bretagne ».
Très bien, merci à toutes les deux. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont échappé d'abord? Ce serait bien de jouer le jeu un petit peu. Alors, plus on avance dans les TD, moins vous êtes participatifs, ce qui peut s'expliquer par le distanciel, mais justement, il faut qu'on lutte contre cette tendance-là.
Alix, comment vous vivez ces cours à distance?
C'est très 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 compliqué. C'est assez dur mentalement, psychologiquement. On essaye de se souder les uns des autres, de s'aider, mais en fait, on se connaît pas assez pour ça. Puisque moi, dans ma fac, on est rentré qu'en octobre. Donc, on a fait vraiment qu'un mois ensemble et c'est dur de créer des liens et de s'entraider, quoi. On a tous envie de lâcher, mais on essaye de d'être toujours là, mais ouais, c'est dur.
Ça vous arrive de vous sentir seul?
Oui, vraiment, tous les jours. T'es tout seul, t'es dans ta chambre, même si tu sais que t'as des amis autour, tu les vois pas. C'est pas concret, en fait, donc c'est compliqué.
Tous vos cours sont à distance?
Ouais, en effet, tous mes cours.
Donc vous êtes en STAPS, donc filière sportive, et vous ne faites pas du tout de pratique sportive?
Les profs essayent de nous motiver à en faire de notre côté. On est censé faire du volley, on peut pas faire du volley tout seul. Enfin, il y a des sports collectifs et puis ouais, ensemble c'est mieux. Enfin, t'es motivé quoi.
Qu'est-ce qui vous manque le plus?
De rire, de parler, de rigoler, je sais pas, ouais ça. Je m'imaginais faire tous les trucs qui étaient possibles à 18 ans. Et au final, je me retrouve enfermée. C'est un peu, être privée de ces libertés qu'on aurait pu avoir. T'es censé rencontrer les personnes qui vont te suivre toute ta vie parce que vous êtes dans une filière commune, vous avez les mêmes passions, vous partagez les mêmes centres d'intérêt. Et au final, tu les rencontres même pas, tu sais même pas qui elles sont vraiment. Et ouais, c'est ça qui est dur. Et puis, de profiter de ta jeunesse, quoi.
Vous avez l'impression de ne pas en profiter.
Ouais, c'est ça. D'être en pause, en fait, de ma jeunesse et d'être plutôt une machine à faire mes cours, à être devant mon écran. Ok, j'intègre les informations, mais au final, j'ai que le négatif, en fait, des études, quoi.
Vous arrivez à accrocher, quand même, avec les études?
Je sais pas, je dirais... Ouais, je sais pas. Mais tous les jours, au moins, tu fonds en larmes parce que ça va pas, parce que, voilà, c'est... Je pense que c'est pareil pour tout le monde, c'est juste une difficulté en fait commune et qu'il faut essayer de te dire que c'est commun, t'es pas toute seule, continue et ça va payer un jour quoi.
Là on était derrière vous, mais est-ce que pendant un cours, que ça soit en TD ou en cours magistral, ça vous arrive d'être sur votre téléphone portable, sur les réseaux sociaux, de faire une petite sieste derrière, enfin en gros de faire autre chose que d'écouter le cours?
Presque tous les cours. Mais c'est pareil pour tout le monde, je parle avec les gens un peu qui sont dans mon entourage et on fait tous la même chose quoi. C'est compliqué, c'est pas voilà, et puis il y a personne pour te dire sois pas sur ton téléphone, fais pas ci, fais pas ça, personne te voit donc c'est plus facile quoi.
Ça va, ça s'est bien passé Alix?
Ouais, un peu fatiguant mais ça va.
Et à quelle heure est-ce que tu veux manger ce midi du coup?
Midi et demi, je pense, c'est bien.
Bon, parfait.
J'en peux plus.
Oui, ça m'étonne pas. Dis donc, tu t'es levée. C'était quelle heure? 8h15.
Non, je me suis levée plus tôt, mais. Pour avoir quoi à 8h15, maman?
T'as du mérite, hein. Et puis c'est parce que vraiment. C'est difficile de se motiver quand même en ce moment-là.
Ouais, c'est pas grave, faut que je fasse. De toute façon, je suis bien obligée. C'est la vie. Hein.
Vous, Laurence, vous êtes infirmière puéricultrice. Votre mari, donc le papa d'Alix, est kiné. Vous avez un fils qui est lycéen et une grande fille qui est en école d'ingénieur et qui est confinée donc avec ses co-étudiants. Donc finalement, Alix, elle est seule ici en journée.
Ouais, elle est seule, faut qu'elle se motive, faut qu'elle mette son réveil, qu'elle se lève, qu'elle soit à l'heure à ses cours. Enfin, ça lui demande de l'énergie, je pense, ouais. Là, ça fait long pour se motiver. Au début, c'est, je pense, un peu amusant, un peu nouveau. Il y a de la curiosité, mais au bout d'un moment, il y a de la lassitude. Donc, ouais, puis je la sens pas vivre comme elle vivrait. Enfin, elle est assez... elle est assez sociable, elle aime voir des amis, elle aime sortir. Donc de tout ça, elle est privée. Et puis effectivement, avec les parents qui se sentent, en fait, vu que les études sont arrivées dans l'appartement, on se sent plus concerné qu'on l'aurait été. Et comme elle est seule, en plus, à la maison, que ses frères et sœurs sont partis, ben on est sur son dos, on essaie de s'investir dans ses cours, dans sa scolarité. Donc on... Voilà, on est peut-être intrusif alors qu'on veut lui montrer qu'on est concerné et qu'on veut l'aider. Des fois, je pense qu'elle, ouais, elle a l'impression d'être devenue une petite fille avec ses parents, donc ça doit être, ouais, ça doit être pesant pour elle.
Là, c'est 13h30 et Alix, vous vous remettez devant l'ordi pour la suite de la journée de cours.
C'est ça, on continue.
Ça va et toi ? Ça a été ce matin ?
Ouais, ça va.
Vous êtes le papa ?
Oui, je suis le papa d'Alix. Oui.
Vous vous appelez comment ?
Loïc.
Donc là, vous rentrez du travail ?
Du travail, j'ai travaillé ce matin et voilà. Et puis j'ai déjà eu ma fille au téléphone dans la journée qui m'a posé quelques petites questions puisqu'elle fait des études qui sont en rapport un peu avec ce que je fais.
Parce que vous êtes kiné ?
Je suis kiné, donc en rapport avec l'anatomie et tout ça, donc elle m'a... Entre deux patients, j'avais des petits messages pour répondre à ma fille.
Vous comprenez qu'on ait basculé tous les cours en distanciel ou pas ? Ou vous pensez qu'on aurait pu faire quelque chose d'hybride comme c'est le cas en ce moment au lycée ?
Bah, moi, je pense que oui, on aurait pu faire différemment, ça c'est sûr, quoi. Parce qu'on arrive quand même à des aberrations, là, le fait de faire des cours comme ça, c'est qu'on arrive quand même à... Là, je prends le cas de ma fille, ça fait quand même un an qu'elle a de l'anglais, elle a de l'anglais en distanciel, avec pas toujours des cours en vidéo, donc ça veut dire qu'elle a des cours par écrit pour apprendre une langue, quoi. Donc c'est quand même compliqué, quoi. Et là, elle fait des études en STAPS, donc ça veut dire qu'elle va apprendre le sport en apprenant des règles sur papier, quoi. Donc c'est compliqué. C'est comme si on me demandait, moi qui étais kiné, à apprendre les massages juste en m'envoyant des polycopiés, quoi. C'est un truc qui est complètement loufoque, quoi. Donc voilà, je pense qu'on aurait pu faire autrement. Je pense qu'on peut adapter. Il y a des grandes entreprises qui arrivent à travailler avec des gens qui sont en présentiel, où il y a beaucoup de monde. Pourquoi on peut pas faire ça pour les étudiants, quoi? Et inconsciemment, peut-être qu'on leur envoie le message aussi que bah, c'est eux qui sont responsables de tout le bazar, quoi, du moment, quoi. Enfin, de tout ce virus, de toute cette propagation. Donc voilà, c'est effectivement ce message qui est un petit peu envoyé, quoi. Alors après, il faut se poser comme question, c'est savoir est-ce qu'il vaut mieux qu'on mette tout pour que notre jeunesse s'épanouisse, ou est-ce qu'il vaut mieux sauvegarder des personnes qui finalement sont plutôt en fin de vie. Mais c'est vrai qu'en tant que parent, moi, ma réponse est vite trouvée, quoi. C'est, voilà, je pense qu'on sacrifie un petit peu la jeunesse, ouais.
Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.
Bonjour. Bonjour, c'est France Inter, j'ai rendez-vous avec Frédéric Adjé.
D'accord, j'appelle le docteur. Docteur Adjé, votre rendez-vous.
Bonjour.
Donc, je suis le docteur Frédéric Adjé, je travaille au BAPU Pascal. BAPU, ça veut dire Bureau d'aide psychologique universitaire, qui est un établissement de la Fondation Santé des étudiants de France.
Merci. En quoi la vie sociale des étudiants, elle est importante? Et le fait qu'en ce moment, elle soit sur pause, ça rend la situation très difficile pour les étudiants.
Alors, la vie sociale, elle est particulièrement importante dans la période des études parce que c'est la période pendant laquelle on met en place des relations nouvelles et des relations affectives fortes nouvelles. C'est-à-dire que les relations sociales sont un point d'appui pour se lancer dans une vie d'adulte. L'adolescence est une période où commence la séparation d'avec le monde de la famille. Mais la période des études, entre 18 et 25 ans, c'est la période où on concrétise cette séparation, hein, et où il y a une véritable construction d'autonomie. Et le fait de créer des relations sociales, ça va être un motivateur et un point d'appui progressivement qui va se mettre en place pour avancer dans ces projets.
On entend beaucoup parler de générations sacrifiées avec ces étudiants, notamment les néo-bacheliers qui ont passé le bac dans les conditions qu'on connaît. Est-ce que ce terme de génération sacrifiée, vous le reprenez à votre compte ?
Non, pas vraiment. Ce sont les adultes qui utilisent ce genre de terme hein, et qui, pour une bonne part, projettent leur culpabilité et leurs angoisses. Je pense qu'ils ont beaucoup de ressources hein, et je pense qu'ils ont des capacités pour faire face. Mais je pense aussi que c'est important de déployer plus de moyens pour aider ceux qui auront été fragilisés.
C'est une génération qui s'adapte, vous voulez dire. C'est-à-dire qu'il y a une forme de plasticité qui fait que ça, on l'a vu dans la façon dont ils s'engagent pour l'environnement. C'est pas une génération qui baisse les bras.
Absolument. Hein, ça, on le voit dans différents domaines. Je pense que dans tous les combats sociétaux, dans les combats pour l'écologie, on voit bien qu'ils sont très investis, très impliqués. Il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste, c'est-à-dire qu'ils sont plus dans les engagements politiques classiques, je dirais. On voit bien qu'il y a une désertion de ce point de vue-là. Mais par contre, dans les combats écologiques, les combats féministes, on voit bien qu'il y a une dynamique qui est extrêmement forte. Hein, et ça témoigne de leur vitalité, ça témoigne du fait qu'ils sont capables de s'adapter. Et en même temps, qu'ils ont aussi envie d'avoir prise sur ce qui va se passer. Je crois que c'est très important de les aider, hein, c'est-à-dire ne pas être dans « vous êtes des pauvres petits sacrifiés, c'est foutu, et c'est de notre faute hein, ». Ça, c'est de notre faute, c'est plus rare d'ailleurs qu'on le dise. Mais je pense qu'il faut leur faire confiance et les soutenir. Je crois que c'est ce qu'on peut faire de mieux.
Inter, interception.
Ces cours en distanciel, pour les professeurs non plus, ce n'est pas la panacée. Pour s'en rendre compte, allons suivre un cours magistral d'histoire politique du 19e siècle, niveau première année. Le cours est assuré par Caroline Muller. Elle est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Rennes 2.
Votre cours débute dans 10 minutes. Alors, c'est quoi votre rituel? Parce que c'est un marathon, hein, faire cours devant son ordinateur chez soi pendant 2 heures.
Bah, le rituel de base, c'est que je me fais du thé. Alors, voilà. Bon. Là, c'est lancé. Et aussi, je me débrouille pour que les chats ne soient pas trop bruyants. Donc, je range les jouets les plus bruyants parce que sinon, ils se font entendre. Voilà, va falloir qu'on y aille. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, avec plusieurs i. Comment ça va? Comment ça se profile à la fin de semestre? Vous tenez le choc? Ben moi ça va. Merci de demander.
Donc là vous parlez au micro et les élèves vous répondent par écrit sur le chat.
Oui, c'est ça.
Pourquoi vous ne faites pas un cours complètement interactif en audio?
Bah, parce que c'est un peu compliqué d'un point de vue technique, parce que là, si on se met à 30 en audio, en fait, il faut que chacun, à chaque fois, recoupe son micro, sinon ça fait des problèmes d'écho, donc il y a tout cet aspect-là. Et en fait, ce que je constate, et qui est quand même aussi intéressant, c'est qu'on a des gens qui parleraient pas dans l'amphi, qui parlent dans le chat. Donc c'est pour ça que je les laisse assez libres de le participer. Après, quand vraiment personne ne répond ni dans le chat ni en audio, je grogne un peu et en général, ça les réveille.
Donc là, on voit en haut à gauche, il y a le nombre d'étudiants connectés. Ils sont 30 sur combien?
Ils sont 30 sur à peu près 60-70.
Est-ce que vous avez moins d'élèves qui se connectent à vos cours magistraux qu'au début du confinement fin octobre?
C'est resté relativement stable. Je sais qu'il y en a qui fatiguent de cette obligation de suivre tous les cours à distance. Et je sais par exemple qu'il y en a qui ne se connectent pas ou ne suivent pas le cours, mais qui par contre récupèrent les notes et les documents sur Cursus. Et puis il y a aussi tous ceux qui nous disent à quel point c'est difficile par mail, donc tous ceux qui nous envoient des messages qui abandonnent. Les vagues de panique aussi qu'on reçoit par mail, donc très souvent c'est j'en ai au moins un ou deux par jour en ce moment hein, d'étudiants qui nous disent bon bah Moi, d'habitude, je suis quelqu'un d'hyper motivé, de très concentré. J'ai toujours été un bon élève. Et là, juste, j'y arrive pas. Les formats que vous proposez, que ce soit le podcast, le cours écrit, j'y arrive pas. Il y a trop d'informations, trop d'outils, trop de plateformes, trop de logiques pédagogiques différentes. Donc, on a beaucoup d'étudiants qui craquent, en fait.
Est-ce que ces étudiants de première année, notamment, que vous avez aujourd'hui, ne sont pas une génération entravée, dans le sens où ils ont passé le bac dans la situation qu'on connaît, et là, en entrant à l'université, qui est un monde complètement différent du lycée, ils ont eu 3 semaines en présentiel, et ensuite, que des cours à distance.
Ben, si, c'est difficile, parce que l'université, c'est pas qu'un lieu d'apprentissage de savoir et de connaissances, hein, c'est un monde. C'est un monde avec une vie festive, une vie associative. C'est un monde où on fait des rencontres, c'est un monde où on fait souvent la première expérience d'avoir un appartement à soi, une chambre à soi. Et là, pour moi, ce semestre, c'est une vie étudiante en mode dégradé, à savoir qu'il reste que la dimension transmission de savoir. Mais ce qu'on apprend lors d'un premier semestre de licence, c'est pas que des savoirs, c'est un savoir-être, savoir se repérer sur le campus, savoir à qui parler pour tel ou tel besoin. Et nous, on est un petit peu inquiets parce que normalement, ça se fait sur le premier semestre. Deuxième semestre, les étudiants sont déjà beaucoup plus dégourdis, ils se débrouillent. Là, ça veut dire que ça retarde de manière très significative cette acculturation universitaire et cet apprentissage des codes de la vie étudiante. On va reprendre ? Tout le monde est prêt ? Faites-moi signe. Ok. On prend les documents un par un ? Alors, le premier, visiblement, c'est Thomas qui l'a décortiqué dans tous les sens. Thomas, vous pouvez prendre le micro ou pas ? Ok, allez-y.
Est-ce que vous m'entendez ?
Très bien.
Je dois lire ce que j'ai écrit, alors, je suppose.
Racontez-le, c'est encore mieux.
Voilà. Nous sommes parfaitement conscients qu'il y a des étudiants dans une situation psychologique très difficile. Très difficile. Et il y a des suicides. Donc, nous regardons ça avec beaucoup, beaucoup d'attention.
Ce mal-être des étudiants a été documenté par l'Observatoire de la vie étudiante. L'organisme de recherche a mené une étude à l'issue du premier confinement. Le résultat interpelle. 31% des étudiants ont présenté des signes de détresse psychologique. La situation n'a pu que s'aggraver avec le deuxième confinement.
On est pas arrivé ? Non, pas du tout. On est en avance, hein ?
Aujourd'hui, c'est la bonne journée. Pour nous en parler, nous rencontrons la présidente de l'Observatoire, Monique Ronzeau.
Ça peut recouvrir une variété de situations assez importantes. C'est-à-dire que cela va des états de fébrilité nerveuse, d'isolement, d'anxiété, d'angoisse, et encore une fois avec un risque majeur de décrochage qui est lié uniquement à cette partie du constat, c'est-à-dire la partie psychologique dans l'évolution générale de la santé des étudiants prend une place de plus importante.
Comment vous l'expliquez, cette détresse psychologique ?
Alors, on l'explique par plusieurs facteurs. Le premier, c'est quand même la fermeture des campus. C'est-à-dire que les lieux de contact, d'échange n'existent plus en dehors des écrans et des cours à distance. Le second facteur, c'est bien sûr le problème des conditions du confinement et des suites du confinement. C'est-à-dire tous ceux qui ont été dans des situations d'isolement total, c'est-à-dire dans des résidences comme les étudiants internationaux qui ont été très touchés, qui n'ont pas pu avoir le soutien familial, manifestement ce sont ceux-là qui ont le plus été impactés par les effets psychologiques de la crise.
Outre la question de l'isolement qui peut mener à une certaine détresse psychologique chez les étudiants, il y a aussi la question des problèmes financiers. Un étudiant sur deux travaille pour boucler ses fins de mois. Et là, il y a beaucoup de petits boulots qui ne marchent plus parce que les entreprises ferment ou n'embauchent pas.
Oui, alors ça, c'est la deuxième raison majeure qui explique les difficultés actuelles des étudiants. Puisque les enquêtes de l'Observatoire montrent ces dernières années, notamment depuis à peu près 6-8 ans, que l'activité rémunérée, quelle qu'elle soit, sous toutes ses formes, a pris une importance beaucoup plus grande qu'avant dans le budget l'ensemble des ressources des étudiants. Et cela veut dire aussi que lorsque ces sources se tarissent, il y a un déséquilibre immédiat. Il n'y a pas de plan B, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les petits jobs, les entreprises elles-mêmes ne peuvent plus faire appel aux étudiants. Alors il y a eu des mesures relais, dont une annoncée très récemment par le président de la République, c'est-à-dire les emplois dits étudiants, les contrats étudiants. C'est une très bonne chose, mais c'est encore un faible pourcentage de la population étudiante.
Il me faut quelqu'un. Luna, tu viens m'aider ? Bah non, tiens, il va m'aider.
À l'attaque.
Vers le bas. Nickel. Donc là, on descend le haillon. Là, il y a environ 3,5 tonnes de denrées alimentaires, c'est pareil. Hein.
Le Graal.
Voilà, c'est l'université de Cergy, au nord de Paris, département du Val-d'Oise. Une université rebaptisée récemment CY Université. Elle regroupe 24 000 étudiants. Et aujourd'hui, il y a une distribution de colis alimentaires juste avant Noël pour permettre aux étudiants les plus précaires de se nourrir pendant les fêtes.
Voilà, je vous laisse prendre les raviolis. Hop, petit pois. Il vous reste les lentilles, les haricots, verts et rouges. Vous aviez demandé des protections hygiéniques ?
Oui.
Vous deux ? Ok, bah je vous laisse vous servir. Prenez un paquet chacun, chacune, pardon.
Prenez toutes les pâtes là, un paquet par personne.
C'est bon. Ah là, vous en avez pour...
On a des denrées pour au moins 2 ans, là. Je suis choquée, mais... On a bien fait de venir avec tout ça.
Moi, c'est Mathis, je suis le président de l'association Les Éco-Droits. Je suis en deuxième année de droit à Cergy.
Donc, Les Éco-Droits, c'est une association de représentation étudiante et vous faites aussi des distributions d'aide alimentaire.
C'est ça, oui, exactement. On essaye de faire des paniers le plus complet possible avec des produits basiques comme du jus d'orange, des pâtes, du riz, des conserves, des choses qui peuvent se garder longtemps en fait. Et pour Noël, là, exceptionnellement, on a fait vraiment des gros paniers pour que les gens soient bien fournis pour toutes les vacances, quoi.
Combien d'étudiants se sont inscrits pour cette distribution ?
Pour cette distribution, il me semble qu'on est à 405 inscrits. Donc c'est notre record pour la saison, on va dire.
Et comment vous l'expliquez ?
Bah, vu que c'est le retour du confinement, les gens ont reperdu éventuellement leur intérim, leur alternance, leur travail. Et du coup, je pense qu'il y a plus de besoins que jamais en ce moment.
C'est-à-dire que ce second confinement a vraiment plongé dans la précarité de nombreux étudiants ?
Je pense que le pire, en fait, dans ce confinement, c'est que le premier a déjà, fait du mal à beaucoup de gens, tant pécuniairement que mentalement. Et là, je pense que le deuxième confinement, il fait encore plus mal aux gens qui sont en train d'essayer de se relever du premier, justement.
Vous parliez des jobs étudiants. Beaucoup de ces jobs ont disparu, en fait. Les étudiants n'ont plus de source de revenus.
C'est ça, c'est très compliqué de trouver une intérim ou de trouver une banale recherche d'alternance. Maintenant, ça devient la guerre. C'est plus du tout la même chose qu'avant l'épidémie. C'est la guerre pour tout le monde, quoi. Il y a moins de place, les entreprises veulent moins d'étudiants, donc où les étudiants, eux, se mettent plus la pression, c'est une galère. On peut plus compter là-dessus, on peut plus compter sur les petits jobs que n'importe qui pouvait faire avant. Par exemple, on peut faire du babysitting ou des cours à domicile, il y a beaucoup d'étudiants qui le font, et maintenant, par exemple, on peut plus le faire non plus, vu que c'est chacun chez soi.
Donc, grosse précarité, ça vous le ressentez sur le campus ?
Bah, je vois mes camarades qui en souffrent et moi-même, par exemple, j'en souffre puisque je me suis moi-même inscrit pour ma propre distribution alimentaire parce que j'ai besoin aussi, comme plein de gens ici, d'un panier pour une petite aide, quoi.
Parce que vous avez pas de job en ce moment, de job étudiant ?
Non, j'ai pas de travail, j'ai juste les aides sociales. Donc c'est assez compliqué, il faut compter sur la famille et tout le monde ne peut pas compter sur sa famille. Moi, heureusement, je peux, mais du coup, pour les autres, c'est compliqué.
Alors là, nous sommes dehors. Il y a une longue, longue file d'attente avec des dizaines d'étudiants qui patientent dans le froid. Ils ont emmené soit un grand sac, soit carrément une valise pour pouvoir ramener chez eux les produits qu'ils vont recevoir aujourd'hui.
Vas-y, je te laisse te servir un sac.
Un sac ?
Ensuite, un assortiment ici.
Ouais.
Des haricots verts. Ensuite, la tête d'haricots rouges. Un check, vas-y, serre-toi.
Merci quand même, c'est vraiment gentil.
Comment vous vous appelez ?
Je m'appelle Kausako.
Vous avez quel âge ?
J'ai 23 ans. Je suis en sciences économie et gestion à Saint-Martin.
Saint-Martin à Cergy.
Oui, à Cergy.
Là, vous avez un trolley rempli de denrées alimentaires. Qu'est-ce que vous avez pris aujourd'hui ?
J'ai pris tout ce qui est alimentaire de nécessité parce qu'en ce moment, j'ai un peu de problème à m'en sortir parce que je travaille dans la restauration. Mais en ce moment, j'ai plus de ressources et franchement, ça m'a aidé à m'en sortir avant que je reprenne mon travail.
Parce que normalement, vous travaillez dans un restaurant ?
Oui, je travaille dans un restaurant comme intérimaire.
Et depuis combien de temps vous n'avez plus votre emploi depuis la fermeture des...
Depuis la fermeture au mois de mars.
Depuis mars, vous n'avez plus votre emploi ?
Non, je n'ai plus d'emploi. Et j'avais eu quelques emplois dans l'accueil, dans les gares. Après le deuxième confinement encore, c'est arrêté.
Donc vous n'avez plus aucune source de revenus ?
Non, moi, j'ai aucune autre source de revenus. Je suis étudiant étranger, mais je n'ai pas de bourse pour le moment.
Donc cette distribution d'aide alimentaire, elle est essentielle
pour... Oui, elle est vraiment essentielle. Et franchement, je les remercie beaucoup. Ils ne savent pas à combien ça compte pour nous. Ça montre la solidarité étudiante et ça fait vraiment du bien.
France Inter, Interception.
Le gouvernement a fait des annonces en direction des étudiants. Les aides d'urgence versées par les Crous ont été doublées. Le repas au Resto U passe à 1 euro pour les boursiers. Et 20 000 emplois étudiants ont été créés. Ce sont des contrats de 10 heures par semaine. Des étudiants recrutés pour aider les étudiants décrocheurs, notamment les premières années qui n'ont pas eu le temps d'acquérir tous les codes du monde étudiant. Gilles Roussel dirige l'université Gustave Eiffel, située à Marne-la-Vallée. Au moment où Géraldine Allot l'a rencontré, en fin d'année dernière, il était alors le président de la conférence des présidents d'université.
C'est nécessairement une bonne chose hein, d'avoir fait tous ces dispositifs. La difficulté principale que l'on a, c'est que les étudiants fassent ou aient la possibilité de demander ces aides. Et parfois, ils ont du mal à trouver le bon guichet. Pour certains, notamment certains étudiants étrangers qui se retrouvent dans des difficultés matérielles et une méconnaissance du système global, il faut aussi trouver les bons cheminements pour obtenir ces financements. Donc il faut aussi que les étudiants sachent à qui s'adresser.
Ces 20 000 jobs étudiants, ils sont financés par les universités sur fonds propres ou c'est l'État qui vous donne de l'argent, des dotations supplémentaires ?
Alors, ce sont des emplois étudiants, donc c'est un cadre légal particulier qui permet aux étudiants en formation d'être employés par l'université. Donc habituellement, ces emplois étudiants sont sur ces fonds propres. Donc on peut avoir des étudiants, notamment, qui font des accueils dans les bibliothèques, qui faisaient déjà du tutorat d'accompagnement ou du tutorat de formation dans les universités. Donc c'est un élargissement de cette mission. À l'université Gustave Eiffel, on avait financé des emplois étudiants pour sur les questions de Covid. Donc on avait des ambassadeurs Covid qui aidaient les étudiants sur ces questions, qui étaient capables de les orienter vers le service de santé si nécessaire, s'ils avaient des problèmes de précarité, pouvaient les envoyer vers l'assistante sociale. Donc ce type d'emploi. On a aussi eu des emplois pour l'accueil téléphonique des étudiants. Donc on a mis en place une ligne téléphonique ouverte où les étudiants peuvent poser des questions et où ces emplois étudiants répondre. On a aussi des étudiants tuteurs qui vont être dans l'accompagnement...
Contre le décrochage, voilà, en fait.
Contre le décrochage. Donc là, par exemple, des étudiants de master ou de doctorat pourront éventuellement aider un étudiant de licence à répondre à des questions par rapport à un enseignement particulier sur lequel ils auraient des difficultés ou pour préparer des examens.
Donc 20 000 jobs étudiants pour 2 700 000 étudiants, est-ce que ça va suffire pour maintenir les plus fragiles à flot ?
Alors, rien ne remplacera le contact avec les enseignants. Donc, notre préconisation, c'est quand même de faire en sorte qu'ils puissent revenir sur place et que les enseignants puissent accompagner.
Revenir en cours.
Revenir en cours, en deux mots, bien sûr.
Alors, devant nous, il y a quelques étudiants qui qui sont en train de discuter. Nous sommes devant l'IUT de Cergy-Pontoise, site de Sarcelles. 500 étudiants préparent ici différents diplômes universitaires, notamment génie électrique et informatique industrielle. Avec ce diplôme, on peut devenir technicien supérieur. Et ce matin, il y a travaux pratiques en présentiel, comme tous les mardis matins. Et donc une dizaine d'étudiants ont le droit de venir sur le site. Ça fait bizarre de voir un site universitaire qui est vide. Et là, c'est complètement vide.
Bonjour. Enchantée, Géraldine et Martha, notre preneur de son.
Ok.
C'est bizarre, hein, c'est calme.
Bah oui, du coup, il n'y a pas d'étudiants aujourd'hui. Enfin, il y a juste les étudiants qui sont
en TP.
En TP.
Bonjour.
Je me présente, Youssef Harib, enseignant au département génie électrique sur le site de Sarcelles. Je suis aussi directeur des études, première année. Et je vais vous présenter ce qu'on a mis en place pour les étudiants de première année.
Là, aujourd'hui, il y a TP.
Il y a TP, oui. Un TP de système électronique. Il y a 8 étudiants par salle. Et ensuite, il y a une salle dédiée pour les étudiants qui n'ont pas d'ordinateur, qui préfèrent venir à l'université pour travailler. Donc, c'est une ou deux salles dédiées. Voilà. On peut rentrer, si vous voulez. Donc, on voit des tables de laboratoire où se trouvent les appareils d'électronique, appareils qu'ils ne peuvent pas avoir chez eux. Vous avez un oscilloscope, vous avez des GBF, tout ce qui est dans le domaine électronique. Et on peut voir un étudiant par bureau.
Combien d'heures, ici, à l'IUT, ils ont vos étudiants à peu près chaque semaine ?
Ils ont à peu près entre 4 et 8 heures.
Donc, c'est une chance par rapport aux autres étudiants dans d'autres voies.
Oui, tout à fait. Ouais. D'autres départements, ils ont pas d'heure du tout. On aurait pu ne pas faire de présentiel. Voilà, c'était une demande des étudiants, de notre part. Parce qu'on voulait garder ce lien qui est très important avec nos étudiants, pour éviter encore le décrochage, pour les écouter. C'est très important de les écouter aussi. Et faire des TP en électronique en ligne, c'est pas possible aussi. Parce qu'il faut du matériel, il faut analyser les signaux. Ils adorent aussi toucher tout ce qui est composants électroniques, etc. Voilà, on aurait pu s'affranchir de tout ça, mais on est resté sur la pratique. T'as trouvé ce signal ? Non ?
J'ai un signal, mais il ne correspond pas au signal attendu.
T'as vérifié la PAD 4 ? Si elle était alimentée en VCC ? Ben non, regarde. Il n'y a rien en PAD 4.
Il n'y a rien. Ouais, effectivement.
Ah ben oui.
Donc c'est vraiment très technique. Ce sont des manipulations qui doivent être faites en présentiel.
En présentiel. On aurait pu les faire par un logiciel. C'était possible, mais c'était moins palpable pour les étudiants. Là, ils découvrent qu'il y a des problèmes. Ils vont essayer de trouver une solution par des calculs ou par autre chose. Et voilà. Donc, jusqu'à obtenir le signal attendu. Donc là, ça permet vraiment de se confronter à la réalité.
Rémi, vous êtes donc étudiant en génie électrique et informatique industrielle. Vous avez quel âge ?
J'ai 19 ans.
Comment vous vivez cette période qui est compliquée pour les étudiants ? Vous avez eu un premier confinement, un deuxième confinement. Vous êtes les seuls quasiment à avoir énormément de cours en distanciel. Comment vous vivez personnellement cette période ?
Bien, moi personnellement, comme j'habite assez loin, j'habite à 1h30 de trajet, ça m'avantage. Ça m'avantage le fait d'être en distanciel car le temps passé dans les transports, c'est un temps qui est très fatigant. C'est un temps qui est difficilement utilisable pour apprendre. En étant en distanciel, ça me permet de tout simplement avoir plus le contact avec les cours plutôt que de rentrer chez moi fatigué le soir.
Vous habitez où ?
J'habite à Bondy. Je suis plutôt bien desservi normalement, mais pour venir à Sarcelles, c'est un peu compliqué.
Donc vous, Rémi, ça vous arrange les cours à distance, mais est-ce que vous arrivez à garder la même motivation à ne pas décrocher ?
Eh bien, c'est assez compliqué car lorsqu'on est en distanciel, on a autour de nous un environnement qui n'est pas adapté pour apprendre les cours. On a des objets de distraction tels que le téléphone ou des consoles de jeu. On a même parfois notre famille car la plupart d'entre nous vivons encore avec notre famille dans des appartements. On a parfois les petits frères, les petites sœurs qui viennent nous embêter de temps en temps. On a peut-être quelques tâches à faire. Donc c'est assez compliqué par moment, mais je m'en sors plutôt bien, car j'arrive à garder le contact finalement sur mes priorités.
Elle n'est pas facile, cette période. Hein.
Non, elle n'est vraiment pas facile. Comme a dit le président Macron, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. On a l'impression qu'on s'éloigne. On est plus ensemble, on est là, on travaille juste. Et il n'y a plus ce contact qui était si particulier. Et c'est ça que j'aimais à l'école, finalement, c'est être en contact avec mes amis. Aussi apprendre de nouvelles choses. Mais apprendre des nouvelles choses, le tout en gardant le sourire, en s'amusant, en voyant les gens, les expressions faciales. C'est très important, ça. Et c'est ça qui manque à cette vie-là. J'ai entendu dire à un de mes amis dire qu'on était censé vivre la meilleure période de notre vie, socialement en parlant. Bah, c'est un peu gâché. Mais il faut vivre avec. Il faut s'y faire et aller de l'avant.
Messieurs, dames, vous avez le droit de prendre une pause. C'est comme tu veux.
Tiens, moi, j'ai toujours pas la pause.
Ah, il y a des étudiants qui ne veulent pas faire de pause.
Apparemment. Pourquoi vous voulez pas faire de pause ?
Parce que moi, j'ai pas de résultat pour le moment.
D'accord, ils veulent finir leur TP. Bon.
Ils sont consciencieux, ils sont tellement contents d'être de retour en présentiel qu'ils font pas de pause.
C'est bien ça, Rémi ?
En partie,
dit-il. Voilà.
Harib Youssef, c'est vous le professeur, c'est vous qui dirigez donc ce TP. Vos étudiants doivent être en stage au printemps. Est-ce qu'ils ont déjà commencé à chercher ? Ce stage est obligatoire pour valider la formation. Est-ce qu'ils ont déjà commencé à chercher et quelles sont les réponses des entreprises ?
Il y a une enseignante qui s'occupe des stages, qui les aide à trouver des stages, à communiquer avec les entreprises. Il y a peu de réponses positives, entre 5 et 10%. Et c'est même pas sûr, c'est une réponse, c'est un premier contact. Et je pense que ça va être très difficile cette année. Donc il faudra trouver des solutions, soit travailler avec des labos de recherche, soit avec des entreprises qui permettent du travail à distance. Mais c'est difficile. Vu le profil de nos étudiants, ils ont besoin de manipuler, de travailler sur de l'électronique, etc. Donc ça va être très difficile, mais on va trouver une solution, des solutions.
Être étudiant en 2020, c'est faire ses cours en majorité à distance et faire aussi son stage à distance. C'est quand même particulier.
Oui, mais on s'adapte à l'actualité, ce que vivent les entreprises. Voilà, ce que vivent les entreprises, nos étudiants vivent la même chose. Donc finalement, c'est s'adapter à la vie.
J'étais à deux doigts de vouloir écraser l'araignée là. Mais
ah oui, c'est une araignée ? Non, d'accord. Mais elle est en présentiel. Oui. Parce qu'on accepte tout le monde. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit ça.
Même les araignées.
Faudrait reprendre vos araignées.
Cet enseignement hybride, mis en place sur le site de l'IUT de Sarcelles, avec des cours magistraux à distance et des travaux pratiques et dirigés en présentiel, pourrait bien être la nouvelle norme dans les universités dans les semaines à venir. C'est en tout cas l'avis de Franck Loureiro, enseignant à Poitiers et secrétaire général adjoint du syndicat SGEN-CFDT. Il a participé aux discussions avec la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal.
Ce qui peut être maintenu en distanciel, ce sont les cours magistraux. Alors je ne dis pas que c'est simple, parce que on sait que, y compris pendant les cours magistraux, il peut y avoir une interaction entre l'enseignant et les étudiants qui permet de maîtriser le niveau des apprentissages des étudiants. Néanmoins, ce qui nous paraît pour nous fondamental, et je crois que c'est sur ça qu'il faut mettre l'effort, c'est un retour en présentiel pour l'ensemble des travaux dirigés, des travaux pratiques, pas seulement pour ceux qui nécessitent un usage de matériel ou de produits spécifiques.
Donc selon vous, il n'est pas souhaitable de revenir au modèle d'avant, c'est-à-dire que l'université d'avant a vécu.
Tant que la Covid-19 est présente, pour nous, très clairement, on ne peut pas revenir à un modèle passé. Parce que on doit vivre avec le virus et on voit bien que chaque fois on a essayé de refaire du tout présentiel, on a été à nouveau confronté à une obligation de revenir à du distanciel. Et cette façon de fonctionner en stop and go est très déstabilisante pour les agents et pour les étudiants. Mais je crois se redire qu'on pourra continuer à faire comme avant la crise et comme avant le premier confinement, ça serait une erreur. Et donc il faut qu'on tire des leçons, mais les bonnes leçons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, il y a eu la crise, on a vu que le distanciel, voire l'hybride, ça fonctionnait pas si mal que ça. Tiens, ça pourrait faire des économies en plus. Parce que ça, c'est un mauvais calcul. Parce qu'en fait, ce que la crise nous apprend aussi, c'est que faire de la vraie hybridation avec du bon matériel, dans de bonnes conditions, ça nécessite un investissement important. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on demande, nous, à ce que l'État compense. C'est parce que pour faire de l'hybridation, il faut un bon matériel en visioconférence, donc des salles équipées, des connexions et des serveurs Internet qui sont en capacité de gérer des flux énormes de connexions à l'heure, ce qu'on n'avait pas partout. Hein, lors du premier confinement, on a des plateformes numériques d'établissements qui ont planté parce qu'il y avait trop de connexions. Voilà, donc cette idée de dire il faut que cette crise elle nous permette de nous installer dans un nouveau modèle sur du long terme, mais en prenant le temps de la réflexion, aussi parce que une autre crise est possible. Tous les spécialistes aujourd'hui, tous les scientifiques disent que, en particulier à cause du réchauffement climatique, des phases de crise épidémique, pandémique, comme on a vécu avec le Covid-19, mais avec d'autres types de virus, sont possibles. Et donc, on doit être en capacité aujourd'hui de s'adapter à cet avenir incertain.
Étudiant sous Covid, la vie sur pause, Géraldine Allot a signé ce reportage, Martin Troadec et Stéphane Beaufils ont assuré la prise de son, Violaine Ballet à la réalisation, avec l'aide de Martine Messonnier, mixage Sébastien Royer. Ce reportage est déjà disponible à la réécoute sur le site franceinter.fr. La semaine prochaine, nous irons en Égypte avec Martin Roux, retourné sur la place Tahrir, au Caire, où il y a 10 ans, la ferveur révolutionnaire croyait tenir son rêve de démocratie.